Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Rennes et pour ce nouveau numéro, Enjeux de santé s'est rendu au BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire. Situé 11 boulevard de la Liberté à Rennes, le BAPU est un lieu d'écoute ouvert à tous les étudiants qui voudraient parler de leurs difficultés. Là-bas, nous avons rencontré Daniel Olive et Claude Védélier, tous deux psychiatres, ainsi que Alain Leboité, psychologue. Ensemble, nous avons discuté du mal-être qui pouvait survenir chez les étudiants et des moyens de soigner aussi bien les petits coups de blues qu'une dépression plus profonde. Alors, soyez à l'écoute de ceux qui vous écoutent et laissons d'abord nos intervenants nous présenter le BAPU.
Alors d'abord, ce qui est important, je pense, de savoir pour les étudiants, c'est que c'est une structure qui est issue de la volonté des étudiants. Ça s'est créé dans les années 50, après la guerre, à un moment où la santé des étudiants faisait partie des grands problèmes de santé publique, et où les étudiants, par l'intermédiaire de leur syndicat, ont monté, d'abord de façon bénévole, des dispositifs où les étudiants pouvaient être écoutés. Parce qu'à l'époque, on s'était beaucoup préoccupé de la santé physique des étudiants, et une enquête avait montré que finalement, c'était pas ça le problème, c'était plus les préoccupations, la santé psychique, le malaise, qui déjà, donc c'est pas d'aujourd'hui, était le principal problème finalement pour les étudiants. Pourquoi l'âge des études, qui paraît le moment, le meilleur moment de la vie, est aussi un moment particulièrement délicat, parfois à traverser pour certains. Dire que c'est un moment de rencontre, d'expériences nouvelles, mais aussi de séparation, qui ramène à peut-être la première chose, c'est à se découvrir autrement qu'on ne pensait. C'est une sorte de découverte qui parfois surprend et qui peut amener à traverser un peu difficile. Il y a la séparation physique avec les parents, il y a le remaniement de la place qu'on occupait, il y a un deuil à faire en même temps, c'est plus tout à fait à la même place. Et conquérir sa liberté ou prendre la mesure aussi de ses choix, des choix qui peuvent être différents de ceux des parents. Il y a des moments de dépression presque logiques finalement dans cette période-là. Puis il y a les rencontres amoureuses, qui a ses côtés merveilleux, puis aussi il y a les déceptions. Ça amène à se poser beaucoup de questions souvent, et peut-être ce qui peut faire obstacle et qui amène souvent les étudiants à nous rencontrer, c'est que ces moments de transition où il s'agit d'affirmer un choix, ça va se faire en tension avec les choix des parents, les idéaux, la façon dont on avait rêvé sa vie. Et souvent, c'est l'inhibition, le sentiment d'infériorité, l'idée d'échec, l'angoisse. C'est le motif le plus fréquent de consultation, c'est l'angoisse. C'est vraiment un moment où quelque chose se dénude parce qu'il y a une certaine touche d'inconnu qui se présente, et l'angoisse, c'est la première façon d'y répondre. Et l'angoisse, ce qui est important de savoir, c'est que c'est productif. En tout cas, ça peut l'être. C'est un moment très dur, de grande solitude, mais en même temps... De là peuvent surgir des perspectives nouvelles ou même déjà connues mais qui n'avaient pas été exploitées. Et donc le BAPU, c'est un lieu où on peut rencontrer des psychologues, des psychiatres, psychanalystes pour débroussailler un peu ce qui paraît vraiment inextricable.
D'abord, je voudrais préciser que le BAPU est accessible à l'ensemble des étudiants, que c'est remboursable par la Sécurité sociale et pris en charge complètement par la Sécurité sociale. Ce n'est pas gratuit, mais c'est remboursé par les cotisations que les étudiants payent auprès de leur caisse étudiante. Ceci me paraît important. Deuxièmement, l'équipe se compose à la fois de psychologues et de psychiatres qui font le même travail, c'est-à-dire avec une orientation psychothérapeutique, psychanalytique, qui sont là pour écouter la souffrance de la personne, les difficultés, comme il a été évoqué précédemment. Et il est important de pouvoir mettre des mots sur cette souffrance, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir prendre de la distance par rapport à elle pour permettre à la personne de trouver un équilibre qui lui permette d'exister dans la vie d'une façon moins douloureuse. Voilà un peu la fonction du BAPU. Deuxième élément que je voudrais rajouter, mais que mes collègues certainement évoqueront, c'est que le terme de dépression est un terme générique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du terme de dépression, souvent à tort ou à travers, que ça ne correspond pas forcément à la réalité, mais sous le terme de dépression, on est là dans une problématique individuelle de souffrance, d'angoisse, d'absence de désir, et c'est important cette absence de désir, et où la personne est en grande difficulté. Mais évitons de qualifier tout de dépression.
Comment on s'adresse au BAPU aussi ? Donc je crois que c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. C'est un ami, une amie. Ça peut être aussi les points santé dans les universités, dans les lieux où il y a des BTS, les écoles, les grandes écoles. Et ça arrive aussi que ce soit un médecin généraliste ou un médecin spécialisé. Ou sur Internet. Et à quel moment la décision se prend de venir consulter ? Donc là, c'est très multiple. Ça peut être dans un moment d'urgence, quand même, une urgence plutôt à parler, en fait, à prendre la parole sur ce qui arrive. Ça peut être aussi dans l'après-coup. Parfois, des personnes viennent pour saisir quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs mois ou plus un long moment, quelque chose dans une fête qui s'est passé pas comme ils auraient souhaité, ou un décrochage à un moment donné, alors que c'était vraiment, a priori, les études qui les intéressaient, ou, comme tu disais, une rupture amoureuse, ou une discussion serrée avec les parents. Il y a un moment où, en fait, là où la souffrance avait produit un repli, il y a l'idée que de venir en parler pourra ouvrir un autre horizon, en fait. Le point d'angoisse peut être aussi peut-être un moment où s'élaborent de nouvelles réponses. Il y a un savoir, plutôt un savoir de l'inconscient. Quelque chose cherche à se dire là, là où la souffrance était au premier plan, il y a plutôt des paroles qui cherchent à se dire à quelqu'un. Et donc des personnes viennent ici parfois pour quelques entretiens. Et puis parfois c'est pour entamer un plus long travail. Le fait que ce soit très intime ce lieu, confidentiel, et nous sommes tous soumis au secret, je crois que c'est très important. C'est un lieu dans la ville qui est aussi banalisé, discret. Donc je crois que ça donne les conditions. Donc les gens téléphonent en fait pour prendre rendez-vous. Il y a une secrétaire qui est là tous les jours, sauf le mercredi après-midi, qui soit peut donner un rendez-vous, soit prend note de la demande et la personne rappelle. En général, le rendez-vous a lieu dans les 15 jours.
Il sera toujours possible d'avoir un rendez-vous dans un délai quand même raisonnable. Et si, c'est important que aussi les étudiants sachent ça, si pour eux c'est vraiment pressant, il faut qu'ils le disent. On se débrouillera pour leur procurer un rendez-vous dans ces cas-là rapidement. On est sensible à ça, à cette dimension de l'urgence. Alors ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on peut venir pour un problème temporaire, enfin ça va pouvoir se régler assez rapidement, finalement, se débrouiller. C'était une décision à prendre, une question aiguë, un passage à franchir. Pour d'autres, ça prendra plus de temps, mais le temps qu'il faut. Et ça peut aussi, un travail peut se faire par moment, comme ça, parce que c'est le moment de venir parler, et après, ça pourra revenir, mais c'est pas forcément un travail qui va durer très longtemps. L'autre chose est que, parfois, pour certains étudiants, et pour les personnes de façon plus générale, la façon d'exprimer, c'est difficile de savoir même qu'il y a un malaise. Et le malaise va se manifester au décours d'une fête, un passage à l'acte, finalement, quelqu'un qu'on pensait vraiment bien dans sa peau, toujours prêt à faire la fête, toujours content, va découvrir qu'il va peut-être faire une petite tentative de suicide ou un passage à l'acte, se mettre un peu en danger et attirer l'attention de ses camarades qui vont lui indiquer « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, que le malaise soit repéré par un de l'entourage, pour qu'il puisse venir s'adresser à nous. C'est assez fréquent qu'il faille un petit passage à l'acte, un petit point d'appel comme ça. C'est pas toujours facile, on repère pas toujours ce qui fait signe de malaise pour quelqu'un. Et l'autre chose est qu'il peut y avoir aussi, donc dans la dépression, ça recouvre énormément de choses. C'est devenu un mot passe-partout, et ça peut aller du manque de confiance en soi, de l'absence de désir, de la panne, à un sentiment de souffrance très profond, de douleur même, d'exister. et où souvent ceux qui l'éprouvent n'ont pas l'idée que quelque chose puisse les soulager. Et ça, c'est important qu'ils sachent que même quand on se sent vraiment au plus mal et au plus seul dans sa souffrance, si on peut, en s'adressant à l'autre, trouver des issues auxquelles on n'a pas du tout pensé. Donc pour nous, ce qui est central, c'est de permettre justement ce pas. Et parfois, on a les étudiants ont notre adresse depuis un moment. Bon, il y a ceux qui ne connaissent pas, et puis il y a ceux qui vont le garder pendant un temps, l'adresse, et puis il va y avoir un moment où ça va être possible de franchir le pas. Et le fait que ça soit destiné aux étudiants, c'est vraiment important, on s'en est aperçu, les étudiants peuvent avoir des difficultés à un moment donné, s'adresser à quelqu'un, c'est un lieu qui leur est dédié. Et qui est, alors il y a le CIMS, il y a le point santé à l'intérieur de la fac. Souvent, ils peuvent aussi être déjà passés par là. Et pour ceux qui souhaitent plutôt un lieu à l'extérieur de la fac, ils seront aussi reçus très, très facilement.
Le moment aussi d'étudier, c'est un moment aussi parfois de rencontre avec des nouvelles questions, quoi. Enfin, on a des personnes qui viennent ici lors d'un stage, quelque chose. Là, la question de qu'est-ce qui m'a amené à faire ce choix d'études ? Est-ce que c'est le métier que je veux vraiment réaliser, ou même parfois il y a des cours, des interventions de professeurs qui résonnent avec l'histoire de la personne, donc on a des personnes qui viennent quand ils démarrent leurs études, puis d'autres qui viennent quand la question de la fin des études se profile. Là il y a aussi une autre séparation avec ce monde des études qui est un monde à la fois angoissant mais aussi qui donne une place à chacun. Et donc parfois cette question-là surgit quand il s'agit de quitter les études ou de s'engager professionnellement, ou partir à l'étranger aussi. Là, c'est un grand idéal et c'est un idéal quelquefois qu'il faut tamponner un peu.
Oui, il y a un impératif à la mobilité et les étudiants sont parfois un peu écrasés par cet impératif. Il faudrait avoir absolument, pour être un jeune moderne et pleinement réalisé, et pour se donner toutes les chances pour le futur, avoir absolument fait un séjour à l'étranger. Il n'y a pas une seule voie pour tout le monde. On le découvre et ils le découvrent aussi avec nous. Et ça permet de soulager cette exigence-là de chemin unique de réalisation.
Je voudrais formuler le fait que d'abord, il y a le premier. Souvent, on est confronté à des étudiants qui rentrent à l'université ou qui rentrent dans les études supérieures et qui sont en situation de séparation de leur vie antérieure. Non seulement de la vie des parents, mais de leurs relations qui ont existé quand ils viennent d'autres lieux que de Rennes. Donc il y a cet ensemble du processus de séparation qui est douloureux, qui est un deuil et qui est complexe. Deuxième temps, qui est souvent un temps fort aussi, c'est le temps de l'intégration dans la vie active. On a l'impression qu'il y a une confrontation entre l'idéal qui avait été formulé, que chacun nous avons eu de notre vie, et puis le principe de réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être proposé, quelle va être la vie d'adulte. Il va falloir s'installer, avoir un métier, avoir des horaires, avoir des obligations, avoir des loyers, même si ça a été le cas en tant qu'étudiant. Et cet ensemble-là, effectivement, est souvent compliqué parce que c'est la période d'étudiant ou d'étudiante est une période effectivement un peu en passage en quelque sorte. Et un peu comme l'adolescence, c'est un temps de passage, de recherche de soi, et c'est souvent compliqué.
Shampoo, me
C'était Métronomie avec The Most Immaculate Haircut. Nous sommes de retour dans Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes et nous sommes toujours au BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire, où nous avons continué de discuter de déprime, de dépression, de mal-être, mais aussi de joie, d'orientation, de choix, avec Daniel Olive, Claude Védélier et Alain Leboueté, psychiatres et psychologues. D'ailleurs, le terme de dépression s'est banalisé dans nos sociétés. Il est même difficilement définissable, comme en témoignent nos invités.
C'est pour ça que le terme de dépression ne nous qualifie pas vraiment, parce qu'il y a fois des moments de tristesse, de larmes, mais il y a aussi des moments ici très joyeux, en fait. Lorsqu'on accueille cette souffrance, ces difficultés, l'inconscient travaille, l'inconscient est créateur. Il y a aussi beaucoup ici de mots d'esprit, de surprises, de retournements. Voilà. Parfois, les personnes sont surprises aussi de reprendre une autre position par rapport à ce qui s'est passé.
Donc souvent, c'est vrai aussi que le symptôme, le motif qui a amené, les étudiants viennent pour autre chose. Ils découvrent que oui, la question n'était pas vraiment celle-là. Et que donc là, c'est un chemin un peu de surprise, de révision un petit peu de la façon dont les liens se sont construits, de découvrir des répétitions, mais aussi des ouvertures. Il y a des petits détails qui ouvrent sur des possibilités qui n'avaient pas été vraiment explorées, des styles qui s'affirment. C'est un moment assez productif, hein, c'est intéressant.
Moi, je voudrais insister sur le tumulte de cette période étudiante, un peu comme d'autres périodes de passage, en quelque sorte, avec parfois des comportements qui sont des comportements à risque. Je pense au rapport à l'alcool, aux produits, etc., qui ne sont pas forcément signifiants d'un mal-être existentiel phénoménal, mais qui ont besoin d'un certain moment d'être travaillés, d'être expliqués, et qui sont parfois aussi signifiants de ce qu'on peut appeler une dépression masquée, c'est-à-dire une difficulté à vivre la situation et à s'enfuir dans l'anesthésie que représente le comportement ou la prise de produits.
Pour poursuivre, je trouve que c'est intéressant de dire qu'ici, on offre un espace de parole, d'entretien, et on peut adresser vers des médecins qui traitent ailleurs, ou des assistantes sociales, ou parfois, à partir d'un problème évoqué, c'est important de faire un réseau.
C'est vrai qu'un des motifs aussi de consultation, quand même d'appel, c'est l'isolement, la solitude. C'est pas forcément la dépression, ce qu'on appelle classiquement la dépression, mais ça pourrait être rangé comme ça. Et parfois, c'est vraiment le point de départ d'une réouverture au lien social. C'est la première ouverture qui permet vraiment de se décider. Il y a une décision aussi, il y a une dimension un peu d'acte dans le fait d'appeler, qui déjà un premier pas vers l'autre, quoi, et qui permet de trouver un appui pour se lancer là où ça paraît si difficile. Et je pensais aussi qu'on n'avait pas parlé de ce qu'on appelle la bipolarité, qui est le terme actuel pour aborder la question de la dépression. Les étudiants, les générations nouvelles ont aussi ce recours d'aller sur Internet, se construire leur diagnostic et leur solution et leur médicamentation, et appuiser un savoir un peu prêt à porter. C'est une tentative de trouver une aide dans ce savoir-là qui est dispensé sur Internet et sur les forums surtout, je pense, hein. C'est un appui. Il y a une façon peut-être de ne plus se sentir seul avec les symptômes qui sont éprouvés, et à chercher à se reconnaître, à s'inscrire dans une communauté. C'est un aspect d'une tentative de se traiter, finalement, de sortir de son isolement. Mais nous, on met l'accent surtout sur l'idée que chacun a des ressources propres, qu'il est possible qu'il ignore. Je trouve qu'on voit quand même assez rapidement une amélioration de ce qui faisait le drame et s'ouvrir d'autres questions.
Comment pourrait-nous venir en aide à un proche qui serait peut-être en train de traverser un épisode dépressif?
Je pense que la réponse, c'est en étant là, en étant à l'écoute, et puis en l'accompagnant, mais en le laissant quand même maître de son parcours et de son histoire.
Moi, je trouve que beaucoup d'étudiants viennent dans des moments de grand malaise et où c'est un proche qui leur a dit de venir. En fait, celui qui a montré son malaise à l'autre, c'est un message. Il y a des gens qui se cachent, qui souffrent en secret. Où on ne le sait pas, les autres ne le savent pas. Quand le malaise comme ça est exprimé, c'est déjà quand même un appel pour... Il y a besoin d'un coup de pouce, c'est difficile d'appeler, il faut se décider. Et donc, l'entourage, c'est un appui pour la décision. On ne veut pas que tu restes dans cet état-là. C'est un signe d'attention, en fait. Oui, je me disais aussi que le temps des études, ça ouvre à, pour certains, à une exigence illimitée. Le lycée cadrait, tandis que donc à l'université ou dans les écoles, il y a une plus grande liberté laissée dans l'organisation du travail. Et là, c'est quand même un signe de, aussi de, un peu de malaise quand même, que ce ne sera jamais assez.
Je crois que la question là, c'est la représentation sociale. C'est-à-dire que la représentation sociale, le donner à voir de l'hyperactivité, d'être toujours performant, est fondamental dans notre société actuelle. Et un certain nombre d'étudiants essayent de correspondre à cette représentation collective, aussi pour fuir ce qui fait difficulté pour eux ou qui pose question sur eux. Et à un moment donné, il y a une situation où, effectivement, ils ne peuvent plus. Et ça s'écroule. Et là, dans cette hyperactivité qui est une modélisation sociétale actuelle, ils n'y arrivent plus. Et c'est important de signaler cette dimension-là de pression sociale sur les résultats, sur la compétence, sur le faire, etc. Sur le faire plutôt que sur le penser.
Il n'y a pas que la psy pour sortir du malaise, hein, c'est évidemment. Mais je pensais à un élément qui peut-être est un frein à s'extraire d'une situation de malaise, c'est le sentiment de culpabilité. Beaucoup d'étudiants ont affaire à ça, un sentiment de culpabilité très important, puisque c'est un moment un peu comme disait Claude Védéillé, où il y a une sorte d'exigence de bonheur et de réussite et de s'éclater, etc. Et forcément, ça rate. Ça rate pas tout le temps, mais il y a des moments où ça rate. C'est pas tip-top, comme dans les magazines, etc. Et il y a aussi un sentiment de culpabilité de pas pouvoir se mettre au travail comme c'était au lycée. Parce que les conditions ont changé, il faut trouver un ressort plus en soi que dans la demande de l'autre. Et je trouve que c'est très fort, et peut-être d'autant plus que le chemin est moins tracé. C'était plus facile, finalement, de se ranger à un chemin. On savait ce qu'on allait être demain, où on était attendu. Tandis que là, ça revient sur le sujet lui-même, sous la forme soit de la honte aussi. Et bon, ça, c'est des choses quand même qui pèsent beaucoup et qui c'est vraiment important de pouvoir alléger.
Il y a une question qui est souvent évoquée ici, qui est transgénérationnelle, finalement. C'est la question de l'affectivo-sexuel. Qui est beaucoup parlé, beaucoup questionné, et parfois aussi au niveau des performances des uns et des autres, des affects ressentis, etc. Et cet ensemble-là, finalement, fait communauté de liens avec les générations anciennes.
En fait, depuis tout à l'heure, vous avez parlé de différents points qui seraient peut-être à l'origine d'un mal-être chez les étudiants, que ce soit les études, ou comme vous disiez, que être étudiant, c'est un peu une période charnière entre voilà, l'adolescence et la vie active. Et du coup, est-ce que la population étudiante est plus vulnérable à ces mal-être ? Est-ce qu'il y a des facteurs ?
Bon, je pense que c'est pas que les étudiants, c'est un petit peu dans l'époque. Le fait que on est dans un moment de la civilisation où c'est moins les idéaux. On réalise moins sa vie au nom d'un idéal, quel qu'il soit, mais il y a quelque chose dans la civilisation qui fait qu'on est plus orienté vers la question de l'hédonisme, du bien-être, d'un rapport à la satisfaction, voire même à la jouissance, qui crée un certain court-circuit. C'est pas seulement les générations étudiantes qui ont affaire à ça, leurs parents aussi sont touchés par ça, mais bon, c'est un moment de choix. On voit que les satisfactions par les toxiques, mais aussi par toutes sortes de consommations, bon, on qualifie notre époque d'époque de la consommation, c'est moins propice à donner un sens à la vie. Et en ce sens-là, c'est plus fragilisant du point de vue du désir. Il y a quelque chose, par exemple, concernant ce qui est particulier à l'époque, disons, j'ai remarqué que la question de l'orientation sexuelle, par exemple, est beaucoup moins décidée actuellement qu'elle ne l'était certainement 30 ans auparavant. C'est quelque chose qui, parfois, se décide dans la rencontre. Et l'époque est beaucoup moins normative, et c'est que la dimension de la norme s'imposant moins, ça laisse plus de champ au sujet pour vaciller de ce côté-là. Donc c'est à la fois une ouverture, mais parfois ça désoriente. Mais en tout cas, on voit que ça a ouvert des questions qui se posaient quand même de façon beaucoup moins et parfois de façon beaucoup plus, d'ailleurs, culpabilisante. Hein. Donc ça, c'est un élément un peu nouveau.
Tout à fait. Moi, je pense que notre époque que toute la complexité, mais aussi l'intérêt de cette époque, de notre époque, c'est que la personne est seule. Est seule dans un cadre qui est de plus en plus flou et qui ne montre pas la route à suivre. Ce qui fait la complexité des choix, les difficultés des choix, à la fois au niveau professionnel, au niveau sexuel, au niveau affectif, et les diversités de possibilités qui existent. Je pense que c'est ça qui fait que probablement l'apparence du mal-être est plus marquée maintenant que ce que ce fut à d'autres époques, ce d'autant que le nombre d'étudiants a augmenté, ce d'autant que la diffusion autour de ce qui est douleur psychique ou mal-être psychique est de plus en plus importante. Donc on est dans ce contexte-là.
On est plus dans une culture de la permission que de l'interdiction. Si bien que les symptômes, ce dont les jeunes viennent se plaindre, c'est plus la même chose. Avant, c'était plus des problèmes de conflit de loyauté. Il y avait un conflit et allait-on suivre son désir ou suivre les idéaux? Tandis que là, ça ne se présente plus comme ça. C'est comment se débrouiller de quelque chose qui est plus fort que soi parfois. Et comment se raccorder avec ça? Par exemple, se retrouver dans des situations de façon répétée, quelqu'un qui se retrouve à chaque fête avec quelqu'un de différent, comment il va faire avec ça? Il se retrouve avec ça, qui est étranger à lui-même, et il va falloir qu'il en fasse quelque chose. Donc c'est un peu différent.
Oui, pour poursuivre sur la question de l'orientation, l'université à la fois maintenant veut transmettre un savoir, mais parfois déjà préparer un métier, alors que c'est parfois très différent. On voit des étudiants qui arrêtent des études parce qu'elles sont déjà trop professionnalisantes dès le départ, qui ont besoin d'un temps de circuler dans le savoir. Et d'autres, à l'inverse, vont un peu se noyer dans un savoir infini et remettent toujours à plus tard la question de comment gagner sa vie.
Est-ce que dans notre société, on n'utiliserait pas à tort et à travers le terme dépression, en fait, pour qualifier toutes sortes de symptômes qui ne sont pas forcément une dépression d'un point de vue clinique?
Oui, c'est intéressant votre question. Est-ce qu'il n'y a pas une médicalisation de l'existence avec ce terme de dépression? Oui, il y a une médicalisation de l'existence, mais il y a une différence entre se loger sous ce terme et s'y installer d'une certaine façon, et avec toute sa suite de prise en charge, etc., et de venir essayer de tirer les conséquences du moment qu'on traverse.
Être triste, c'est pas être dépressif. Il est compréhensible d'être triste.
En même temps, c'est important aussi de savoir que, par moment, il est nécessaire d'avoir recours, pas seulement à la parole, pour traiter un moment difficile. Un appoint thérapeutique, c'est tout à fait justifié pour traverser certains moments. Et donc nous, on n'hésite pas, si c'est nécessaire, on ne le fait pas nous-mêmes, on ne prescrit pas au BAPU, mais on soutient tout à fait la démarche auprès de collègues psychiatres, parce que y a des molécules tout à fait intéressantes qui permettent de permettre en même temps l'accès à la parole. Ce serait vraiment dommage de s'en passer.
C'est même une obligation de notre part. Je pense que c'est de notre fonction de thérapeute, de médecin aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que la personne ne soit pas en souffrance et ne risque pas sa vie.
Enjeu de santé touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission ainsi que les émissions précédentes et des informations relatives au sujet du jour sur radiocampusrennes.fr. Sachez qu'une prochaine émission aura pour thème les égalités et les inégalités femmes-hommes chez les étudiants ou dans le cadre universitaire. Donc si vous avez des questions, des témoignages ou des remarques, n'hésitez pas à envoyer un message à Enjeu de santé, ENJEUXDESANTE@radiocampusrennes.fr. Toute contribution est bien sûr la bienvenue. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour un nouveau numéro d'Enjeu de santé. Salut à tous et portez-vous bien.